Je vous invite à écouter aujourd'hui la lecture de quatre textes. Le premier, c'est dans l'Exode, chapitre 22, verset 20. Tu n'exploiteras ni n'opprimeras l'immigré, car vous avez été des émigrés au pays d'Égypte. Ça a été écrit il y a 2700 ans à peu près. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 6, c'est un des textes qui est recommandé ce jour. Je l'ai retenu parce que, comme il est plein d'optimisme et d'espoir, ça me semble correspondre en ce début d'année. Je retrouve la page. C'est ça. Donc Ésaïe 60, 1 à 6. Je précise, c'est pas évident, que le prophète s'adresse à Jérusalem à ce moment-là. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet, les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi, le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Porte tes regards sur les alentours et vois, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils vont arriver du lointain et tes filles sont tenues solidement sur la hanche. Alors tu verras, tu seras rayonnante. Ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi sera détournée l'opulence des mers. La fortune des nations viendra jusqu'à toi, un afflux de chameaux te couvrira, de tout jeunes chameaux de Madian et d'Eipha. Tous les gens de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens, et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Dans la Nouvelle Alliance, deux textes qui feront l'objet de la méditation tout à l'heure. Tout d'abord, dans Matthieu chapitre 20, versets 1 à 6, qui est bien connu, j'espère, mais je vais le relire quand même. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail. Et il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième, il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore. On trouva d'autres qui se tenaient là. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ?»« C'est que, disent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Alors, vous aussi, venez à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. C'est 1 à 16, c'est pas 1 à 10, 6. Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage. Ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. Ces derniers venus, disaient-ils, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids de la chaleur, du jour et de la grosse chaleur. Mais il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent ? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien ? Ou alors ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront derniers. » Puis, quatrième et dernier texte, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, versets 1 à 9, moins connu. Puis Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Il le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant se dit alors en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ? Bêcher ? J'en ai pas la force. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. » Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Celui-ci répondit, « 100 jarres d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assis-toi et crie 50. » Il dit ensuite à un autre, « Combien dois-tu ? » Celui-ci répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu et crie 80. » Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur, parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole. Aide-nous à la comprendre, tant de siècles après, et qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 216, les trois strophes du cantique 216, « Saint-Esprit, Dieu de lumière ». Nous prions. Oui, Seigneur, nous t'adorons, car nous savons que tu nous as aimés le premier, et nous savons que tu ne tourneras pas la face devant nous. Donne à notre Église non l'eau tiède du conformisme, mais le feu de ta volonté et de ta puissance. Amen. Jésus s'exprimait régulièrement, même principalement en paraboles. Je ne les ai pas comptées. Certaines sont bien connues, d'autres moins. Certaines sont simples, d'autres moins. Et cela fait 2000 ans que les humains travaillent à les interpréter. La plupart du temps, et depuis les pères de l'Église, dès le IIe siècle, pour des raisons culturelles, on propose pour les expliquer une explication allégorique. Je me suis demandé s'il y avait une différence entre une parabole et une allégorie. Notre ami Henri Perceau, qui vient prêcher parfois ici, qui écrit régulièrement dans Évangile et Liberté et a publié plusieurs livres passionnants, a soulevé cette question. Il a répondu par l'affirmative, il y a une différence, et je dois dire qu'il m'a convaincu. C'est que cela peut changer la vision de façon notable. Si l'outil intellectuel d'analyse n'est pas le même, le résultat peut différer. C'est ce que je vais essayer de vous montrer en me penchant sur les deux paraboles que je vous ai lues tout à l'heure. Dans un premier temps, je vais quand même tâcher d'expliciter quelles sont ces différences entre parabole et allégorie. Les évangiles mentionnent clairement qu'il s'agit de paraboles, c'est le terme utilisé. Il y a d'ailleurs aussi des paraboles dans le Premier Testament. J'ai regardé dans Larousse et sur Google, j'ai cherché des définitions. Parfois même on dit que la parabole est une forme d'allégorie. C'est-à-dire, nous sommes dans la nuance et non pas dans une opinion tranchée. Allégorie, ça vient d'un mot grec qui signifie « parler par image ». Alors voici la définition. C'est l'expression d'une idée par métaphore, image, discours ou tableau. Voilà, donc l'allégorie est définie comme étant une métaphore. Ça ne nous avance pas beaucoup, mais heureusement, c'est précisé un peu plus loin. Chaque élément de l'anecdote ou de l'image correspond terme à terme à une idée abstraite, transcendante, symbolique. Et un exemple assez connu, c'est un tableau, c'est pas une anecdote, c'est la justice et la vengeance divine poursuivant le crime, tableau célèbre de Prudhon. On voit deux êtres ailés qui poursuivent un homme au visage déformé par la terreur du châtiment. Voilà, c'est une allégorie, c'est le titre du tableau, dit que c'est bien une allégorie. Parabole aussi, ça vient du grec. C'est un mot qui signifie comparaison. C'est pas si éloigné, parler par image, comparer. Définition, comparaison développée dans un récit conventionnel dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne. On voit quand même une différence, c'est que les deux anges, appelons-les comme ça, qui poursuivent le crime dans le tableau de Prudhon, ne sont pas empruntés à la vie quotidienne. Donc il s'agit d'un récit beaucoup plus conventionnel, dans lequel un élément extraordinaire, inattendu, surgit pour attirer l'attention et éventuellement donner la clé d'un sens caché. On voit ce qui désigne donc les deux modes d'expression. La parabole est plus terre à terre, a priori. Le pasteur Marshall disait qu'une parabole est une vérité exagérée. Ce qui prouve que j'ai une bonne mémoire, parce qu'il l'a dit une fois quand j'étais au catéchisme. Exemple, quand Jésus nous demande de tendre l'autre joue quand on prend un coup, c'est exagéré. C'est pour interdire de rendre coup pour coup. Ça, c'est exagéré, mais ce n'est pas une allégorie. L'allégorie, c'est un mode d'expression de la culture grecque. La parabole est plus orientale, correspond mieux à la culture des auditeurs de Jésus. On peut imaginer d'un côté donc un philosophe qui exprime de hautes pensées sur l'agora à Athènes, et de l'autre un mendiant qui raconte des anecdotes sur le marché à Jérusalem ou à Bagdad. Je dis Bagdad parce que c'est un peu l'ambiance des mille et une nuits, c'est une autre civilisation, c'est la civilisation orientale. La parabole suppose donc une interprétation plus littérale. Les éléments de l'anecdote, tirés de la vie quotidienne, donc comme je disais, ne renvoient pas tous à une transcendance. C'est l'élément extraordinaire, peu banal, qui intervient, qui permet d'approcher une doctrine. Là où les choses se compliquent, c'est que les quatre évangélistes étaient des chrétiens, mais d'origine soit gréco-païenne, soit juive, mais teintée de culture hellénique. D'ailleurs, les évangiles ont été rédigés en grec et s'adressaient plutôt aux païens qu'aux juifs, d'ailleurs. Donc, sous le vocable parabole, venu de la tradition, les évangélistes ont glissé en réalité parfois des allégories. Ce que vous connaissez peut-être sous le nom de parabole du semeur, par exemple, c'est clairement une allégorie. Le fait que le semeur jette les graines sur les rochers, sur un sentier ou parmi les ronces, c'est totalement contraire aux réalités de la vie quotidienne qui sont censées faire partie des paraboles. Donc, c'est bien une allégorie.
En tout cas, ce n'est pas une parabole.
D'ailleurs, cette allégorie, c'est un procédé tellement étranger à la culture de son auditoire que Jésus, si vous reprenez le passage, l'explicite après l'avoir prononcé. Il ne le fait pas pour les paraboles, puisque son auditoire est habitué aux paraboles. Là, l'auditoire n'étant pas habitué aux allégories, il détaille ce qu'il voulait dire. Donc, rompant avec nos habitudes de protestants libéraux, nous allons faire un peu d'études littérales pour voir si un autre sens théologique que celui proposé depuis 2000 ans peut se dégager. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas de remplacer l'explication allégorique, mais de voir s'il y a quelque chose d'un peu plus riche dans ces textes. Les ouvriers de la 11e heure, donc, d'abord. Vous connaissez cette histoire, je vous l'ai lue, je la résume. Le maître de la vigne verse le même salaire à ceux qui ont travaillé en plein soleil depuis la première heure du jour. La première heure du jour, c'est 6 heures du matin. À ceux qui n'ont travaillé que depuis la 11e, c'est-à-dire 17 heures. C'est vrai que c'est choquant. Comment expliquer cette injustice ? Est-il pensable que l'on travaille moins pour gagner autant que les autres ? L'explication allégorique nous sauve de l'embarras. Il ne s'agit pas d'argent. Le maître, c'est Dieu, comme d'habitude, qui offre le salut. Ce n'est pas l'argent, c'est pas le salaire, c'est le salut qu'il offre, de la même façon, aux vieux fidèles et aux convertis de fraîche date. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est parfait. Si on veut dépasser un peu l'allégorie, et je crois qu'on peut le faire parce qu'il y a quelque chose qui nous y invite. L'allégorie, c'est un peu abstrait. Il y a des éléments très humains, très concrets dans le récit que fait Jésus. Notamment l'indignation des ouvriers de la première heure. Indignation que l'on peut comprendre. J'ai travaillé 12 heures en plein cagnard, les fainéants arrivés à la fin touchent autant que moi. C'est scandaleux. Et le maître de répondre, je t'ai donné le prix convenu, que peut-il te faire que je donne autant à d'autres ? Je fais ce que je veux de mon bien. Et en effet, si vous avez bien écouté, au début de la journée, il a promis une pièce d'argent, et il verse une pièce d'argent. Donc il n'est pas l'ouvrier de la première heure n'est pas lésé. On peut ainsi déboucher donc sur une dénonciation de l'égoïsme des premiers ouvriers. Il m'arrive malheureusement de consulter les commentaires de l'actualité sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et ce genre d'attitude s'y retrouve constamment. J'ai travaillé 40 ans dans mon pays et on donne avec l'argent de mes impôts de l'eau à des migrants en situation irrégulière. Pauvre France ! C'est comme ça qu'ils parlent. Eh bien oui, on donne, enfin on essaie de donner de l'eau en passant les barrages de police à ces manants qui dorment sur les bancs et parlent étrangers, comme chantait Brel. La morale de l'histoire, c'est que l'amour de Dieu n'est pas juste. Le principe grec, juif, marxiste-léniniste, libéral, à chacun selon son mérite, est bousculé par Jésus. L'injustice, si injustice il y a, vient uniquement du regard des hommes, de la jalousie des hommes et du refus de la solidarité humaine. Elle est dans le regard des nantis. C'est ce que dit Jésus. Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? On peut aller encore un peu plus loin, vers serrer les coups un peu plus, de façon un peu plus littérale. J'ai hésité parce que je ne voudrais pas passer pour un maoïste déchaîné, mais si on fait une interprétation libérale de cette parabole, ça voudrait dire que dans le royaume de Dieu, lorsqu'il sera instauré sur terre, tout le monde touchera le même salaire. Lors de la dernière campagne présidentielle, un candidat qui s'appelle Benoît Hamon n'avait même pas osé aller jusque-là. Il proposait un modeste revenu universel, minimum. Bien éloigné de cette vision radicale que je propose, que je ne brandis pas comme un étendard. Je ne pense pas que Benoît Hamon ait élaboré son programme à partir de cette parabole. De toute façon, on a vu le résultat. Sans même aller aussi loin, le message de Jésus est ainsi remis dans sa radicalité, son extrémisme. La cognée est à la racine de l'arbre, proclamait le Baptiste. Et nous venons de le chanter. Jésus nous baptise de feu. Plus familièrement, le christianisme, ce n'est pas les bisounours. C'est violent, c'est choquant, c'est injuste. Ben c'est ça, c'est l'amour de Dieu. C'est injuste, mais c'est absolu. On va passer au gérant habile. Ça, c'est une parabole particulièrement problématique. dès le titre. Le géant habile, c'est le titre qui est dans la traduction écuménique de la Bible que je vous ai lue. Vous savez sans doute que les intertitres des Bibles ne sont pas d'origine. Les codex, c'est-à-dire les manuscrits les plus anciens qui servent de base aux éditions de la Bible et aux traductions, ne contiennent pas d'intertitres, ni de numéro de verset, ni de ponctuation d'ailleurs. Ça a été rajouté ultérieurement, au gré des éditions, pour faciliter la lecture. Donc, dans la TOB, traduction écuménique, c'est le gérant habile. La Bible à la Colombe, qui est protestante, parle d'un intendant infidèle. La Bible de Jérusalem, catholique, parle d'un gérant avisé. D'autres titres, le gérant malhonnête. On comprend bien que ces différents adjectifs colorent de façon variable, différente, l'approche que l'on peut avoir de cette sombre histoire d'escroquerie. Je ne sais pas s'il y a des pénalistes dans la salle qui pourront me dire quelle qualification on peut donner à ces comportements. Donc, l'intendant qui a détourné les fonds de son employeur va être démasqué. Que fait-il? Je vous l'ai lu, je résume. Il aggrave encore sa fraude en remettant une partie de sa dette, de la dette des débiteurs, de son maître, pour se procurer leur bonne grâce et trouver un nouvel employeur lorsqu'il aura été licencié. Et le maître, découvrant tout cela, le félicite ou l'approuve. Ça dépend des traductions. Féliciter ou approuver, ce n'est pas la même chose. Une explication allégorique se propose. Le maître, évidemment, c'est Dieu, comme d'habitude. Les débiteurs, ce sont les hommes, et la dette, c'est le péché. Dieu félicite son gérant, son intendant, Jésus, d'avoir racheté les péchés des hommes. C'est peut-être un peu simpliste, mais c'est clair, réconfortant. Mais là aussi, il y a un élément de l'anecdote qui empêche de s'y arrêter. Je ne veux pas dire qu'il faut supprimer l'allégorie, mais on peut aller plus loin. Cet élément, c'est la profonde malhonnêteté des personnages, y compris les débiteurs. Vous avez noté cette phrase lors du dialogue avec le premier débiteur qui doit 100 mesures d'huile. L'intendant lui dit « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Vite !» Le débiteur ne peut pas douter, si on lui dit de faire vite, qu'il est en train de frauder, que l'intendant n'est pas mandaté pour lui remettre la moitié de sa dette. Et le maître de féliciter l'escroc. Et Jésus de conclure « Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » C'est pas très moral. Alors évidemment, si on retient les adjectifs avisé ou habile dans le titre, on peut conclure que Jésus vante l'habileté et non pas la malhonnêteté de son gérant, de son intendant. L'une va-t-elle sans l'autre? On a fait un premier commentaire à ce sujet, c'est que la justice de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. La loi des hommes est changeante, conjecturelle. La justice de Dieu, non. Comme dit Jésus dans Matthieu, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Donc, on pardonne à l'escroc, c'est l'amour de Dieu, agapé, on pardonne. Ça ne me semble pas encore rendre compte de l'ensemble de l'anecdote. Certains théologiens, pourtant sérieux, ont fait un commentaire plus léger. C'est la thèse de Robin des Bois, l'escroc sympathique. Arsène Lupin, si vous préférez rester dans la culture française. Il vole son maître, qui est très riche, et peut supporter cette perte minime, pour se sauver lui-même en faisant le bien auprès des débiteurs, par définition moins riche que le maître. Celui qui emprunte est moins riche que celui qui lui prête, c'est logique. Cette parabole devient alors un récit picaresque avec un héros malhonnête mais sympathique. Vous avez peut-être noté que d'habitude dans les paraboles, Jésus mentionne un maître, un patron. Ici, il a dit, il y avait un homme riche. Donc on peut le voler. Encore une autre explication. Celle qu'a proposée Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, ce n'est pas un théologien, c'est un cinéaste sulfureux. Il a fait Basic Instinct, Elle, avec Isabelle Huppert récemment, un film français. Mais il a écrit un livre, une biographie, Jésus de Nazareth. Et il explique que les paraboles sont en général une vision du royaume de Dieu. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas révolutionnaire. Mais selon lui, cette parabole du gérant habile serait une vision du royaume de Satan et non pas du royaume de Dieu. Verhoeven ne croit ni à Dieu ni à diable. C'est une façon de parler. Et en effet, j'ai lu les deux paraboles. Il y en a une qui commence par « Le royaume des dieux est comme un maître de maison qui sortit. » Et là, pour le gérant habile, Jésus ne dit pas « Le royaume des dieux, de Dieu est comme un homme riche qui avait un gérant malhonnête. » Donc, il n'y a pas de comparaison au royaume de Dieu dans cette parabole. Verhoeven, donc, pour éclairer un peu cela, trace un parallèle avec un scandale financier il y a quelques années. Ça s'appelait l'affaire Enron. Certains se souviennent peut-être. Enfin, trois dirigeants d'Enron avaient gonflé artificiellement les bilans de l'entreprise en y introduisant des bénéfices fictifs des filiales. Donc évidemment, l'action monte. Quand ça a commencé à sentir le roussi, ils ont vendu vite, vite, comme celui qui doit de lui, là, ils ont vendu vite leurs actions avec des plus-values coquettes. Quand je dis coquettes, je parle en centaines de millions de dollars. Ils n'ont jamais été inquiétés. L'action a chuté forcément après. Et les petits employés, petits actionnaires, évidemment, ils ont vu leur titre, leur fonds de pension, parce que c'est comme ça que ça marche aux États-Unis, leur retraite, réduite au prix du papier. Le vice-président américain de l'époque, qui s'appelait Dick Cheney, a refusé de divulguer le contenu des négociations du gouvernement avec ses infâmes dirigeants. Comme l'homme riche de la parabole, il a protégé et approuvé des escrocs. On peut aussi faire aisément le même parallèle avec la crise des subprimes. Vous vous souvenez, des centaines de milliers d'Américains ont été mis à la rue. Les maisons qu'ils avaient achetées à crédit ont été saisies puisqu'ils avaient des taux variables de crédit. Quelques lampistes ont été sanctionnés. Et de par le monde, les gouvernements ont fait payer aux contribuables le renflouement des institutions financières qui avaient imprudemment ou malhonnêtement spéculé ainsi sur ce que l'on appelait les produits toxiques. C'est le même schéma pour la crise grecque, en gros. On félicite les escrocs et on fait payer aux gens de peu les malversations des riches. Comme disait Alphonse Allais, il faut prendre l'argent là où il est, dans les poches des pauvres. Ils en ont moins, mais ils sont plus nombreux. C'est le monde où nous vivons. C'est le monde que Jésus décrit dans cette parabole, et il le décrit sans dire que le royaume des cieux y est semblable. Et il le dénonce, ce monde, quelques versets plus loin, deux ou trois versets plus loin, je ne suis pas allé jusque-là dans la lecture, mais je vais vous le citer, « Vous ne pouvez servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Après ces hypothèses ou propositions, pour conclure, je me souviens qu'un paroissien, après une prédication que j'avais faite ici, sur Adam et Ève, m'avait dit « On trouve toujours quelque chose de neuf à dire sur ces vieux textes. » C'est qu'ils sont vus, en effet. Ces deux paraboles, rédigées il y a quelques 2000 ans, m'ont amené, sans forcer le trait, j'espère que vous conviendrez que je n'ai pas trop forcé le trait, à parler des migrants, Benoît Hamon, Enron, Dick Cheney, Lehman Brothers, la situation en Grèce. La Bible, ce n'est pas directement la parole de Dieu. Ça, c'est le Coran. La parole de Dieu, c'est la Bible, mais telle que l'ont transcrite entre le 7e siècle avant notre ère et le 1er siècle après Jésus-Christ, cette parole telle qu'ils l'ont comprise selon les contextes socio-culturels dans lesquels ils vivaient. Des contextes qui sont bien éloignés de nous aujourd'hui. Mais même à travers ce prisme, cette parole revisitée, régurgitée par ses auteurs, nous parle encore. Elle s'adresse à l'humanité du XXIe siècle, parce qu'elle exprime l'humanité en son essence, avec ses bons et, vous l'avez vu, beaucoup de ses mauvais côtés. Cette parole, elle est éternelle, mais jamais figée, toujours rajeunie, toujours vivante. Amen.